Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
L'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ, disait Saint Jérôme. Plus de 15 siècles séparent ce docteur de l'Église des pères du Concile Vatican II. En effet, le 18 novembre 1965, les pères conciliaires mettent leurs pas dans ceux du traducteur de la Bible. La constitution Dei Verbum porte ce souci du Concile de faire lire la parole de Dieu et de se mettre à son écoute, découverte. Dei Verbum est l'un des derniers textes votés par les évêques du monde entier réunis pour le Concile Vatican II. Nous partons aujourd'hui à la découverte de ce texte d'une vingtaine de pages avec frère Henri Donneau, dominicain et théologien. Bonjour frère Henri.
Bonjour Isabelle.
Les discussions sur la constitution Dei Verbum ont été lancées sous le pontificat de Jean XXIII, Paul VI lui a succédé. Quel a été précisément le contexte d'élaboration de ce texte ?
Alors on peut dire que c'était le texte dont l'élaboration a été la plus difficile dans tout le concile, puisque comme vous le rappelez, la discussion a commencé dès la toute première session, sous Jean XXIII, en 1962, novembre 62, et ça n'a pu être achevé que 4 ans après, en novembre 65, sous Paul VI, parce que l'élaboration a été difficile, il faut dire, les choses ont été polémiques, étaient conflictuelles, ont touché des sujets très sensibles, très, très brûlants, qui exacerbaient un peu les oppositions. Donc il a fallu beaucoup, beaucoup travailler ce texte, le remanier, de manière à arriver, et c'est ça qui est important, à un consensus, qui fait qu'il a été adopté à une très très large majorité, voire quasi-unanimité, qui fait que c'est un bel exemple de comment le Concile travaille à partir de points de vue très divergents. On arrive à un texte qui fait quasiment l'unanimité pour la vie de l'Église d'aujourd'hui.
Oui, et ça c'est bon signe. Est-ce que vous pouvez nous donner, frère Henri, en fait les points de vue qui divergeaient avant d'arriver à ce consensus ?
Oui, alors les grandes lignes sont toujours un peu schématiques. Il faut se garder de trop politiser les choses. Mais on peut dire quand même qu'il y avait, en gros, ce qu'on a appelé au Concile la minorité, c'est-à-dire les évêques, les théologiens de sensibilité un peu traditionnelle ou conservateurs, qui voulaient avant tout préserver le dépôt sacré de la doctrine tel qu'il avait été formulé par les conciles précédents, les papes, et qui voulaient surtout protéger, préserver, garder intact. Et puis, ce qu'on va appeler la majorité, c'est ce groupe très large des évêques et des théologiens qui souhaitaient, à la demande du pape Jean XXIII, qui avait réuni le concile pour ça, non pas qu'on change du tout la doctrine, mais qu'on améliore la manière de la présenter. La manière d'exposer la doctrine devait changer, devait être actualisée, devait être toilettée, ce qu'on appelle l'aggiornamento en italien, mettre à jour, donc dire mieux la doctrine de toujours. Et on peut dire que c'était ça la grande opposition qui fait que la minorité avait raison parfois de se battre sur certains points importants, mais la majorité voulait qu'on représente les choses de manière nouvelle, plus large, plus synthétique, plus compréhensive, et puis peut-être plus profonde aussi.
Oui, c'est ça. Contrairement à d'autres textes des conciles, Dei Verbum n'avait pas forcément pour objectif de condamner des erreurs doctrinales. Il venait réaffirmer la doctrine chrétienne de la révélation. Quel est précisément l'enjeu de ce texte, frère Henri ?
Oui, c'est, de manière générale, c'est Jean XXIII qui avait dit que ce concile ne se rassemblait pas tellement pour condamner des erreurs, alors que quasiment tous les conciles précédents, depuis les grands conciles christologiques ou trinitaires des premiers siècles, avaient une raison un peu de protéger la doctrine contre des erreurs,
oui, des hérésies.
Qui fleurissaient, des hérésies, qui sont devenues des hérésies du coup, dans l'Église, quand il y avait des graves questions, on réunissait un concile, voilà. Eh bien, Jean XXIII s'est dit, pour une fois, on pourrait réunir un concile pour autre chose que pour condamner des erreurs, parce qu'au fond, il constatait que les grandes erreurs avaient déjà été condamnées, au 19e siècle, au 20e siècle, et il y avait une autre urgence aujourd'hui, qui était de mieux dire, de mieux faire resplendir la beauté de la vérité chrétienne, de la parole chrétienne, en l'exposant d'une manière adaptée et ajournée. Et c'était ça vraiment l'enjeu du Concile, qui a abouti à un texte qui, pour la première fois, présente positivement la doctrine de la révélation, non pas face à des erreurs sur des points particuliers. Ces erreurs avaient déjà été condamnées, et d'ailleurs le Concile assume ces condamnations d'erreurs, mais pour les présenter de manière beaucoup plus positive, beaucoup plus globale, sur une vision d'ensemble de qu'est-ce que la révélation.
Oui, c'est ça. Et dans cette attention particulière à la parole de Dieu, ça s'est traduit aussi pendant le Concile par des gestes qui ont été pleins de sens. Parce que, par exemple, il y avait l'intronisation de l'évangile au début de chaque session. Il y avait des gestes qui voulaient montrer cette attention renouvelée à la parole de Dieu.
Alors ça, c'est très beau. Ça nous montre que la liturgie est toujours au cœur de la vie de l'Église, même dans un concile. Et c'est Jean 23 qui a voulu que, de fait, on rétablisse ou on revalorise un geste traditionnel des conciles qu'on appelait, c'est un terme technique, l'étimasie. Et en grec, ça veut dire la préparation. On se prépare pour un grand événement. Et donc, c'est un geste qui dit que l'Église se prépare sans cesse au retour du Christ. Et c'est pour ça qu'on laisse un trône qui n'est occupé par personne, même pas par le pape, qui préside, un trône vide. Simplement, on vient poser à l'entrée des séances l'évangile du Christ sur ce trône. Donc, c'est le livre de l'évangile qui siège sur le trône, qui dit que ce n'est pas d'abord le pape qui préside, c'est d'abord le Christ, en sa parole, qui préside le concile. Et du coup, ça montre que le concile est soumis, y compris le pape, est soumis à l'évangile, est soumis au Christ. Et toute l'Église est soumise à son Seigneur qui parle, qui lui enseigne aujourd'hui. Et l'Église se prépare au retour du Christ en écoutant la parole de Dieu. Donc c'est effectivement un très beau geste qui existait dans les conciles des premiers siècles, qui avait été oublié dans l'Église latine et que Vatican avait commencé à restaurer, mais modestement. Et Jean 23 a voulu qu'on en fasse un grand geste, effectivement.
Et est-ce que c'est un geste qui perdure encore aujourd'hui, indépendamment
des
conciles ?
Il n'y a pas eu d'autres conciles.
Ouais. Dans d'autres cadres que des conciles, justement, non ?
Oui, alors de manière générale, la valorisation, je sais que dans la liturgie, chez les dominicains, on aime beaucoup, mais ça se fait dans beaucoup d'endroits. On entre en procession avec l'évangile que porte le diacre, et il le pose solennellement sur l'autel, à côté du Christ. En croix, on pose l'évangile. Et c'est de là qu'on va le chercher pour aller le proclamer. On le remet pendant toute la messe. Oui. Oui, vous avez raison. On peut évoquer cette idée qu'il y a une participation de l'évangile à la présidence de la liturgie par le Christ lui-même.
Oui,
toute
ça,
liturgie
ouais.
est présidée par le Christ.
Un des points d'achoppement de cette constitution, c'est l'articulation entre l'écriture et la tradition. La plénitude de la révélation est-elle tout entière contenue dans l'écriture ou l'est-elle dans la tradition ou l'est-elle dans les deux ?
Oui, alors ça, de fait, ça faisait partie de ces questions techniques que le texte préparatoire du Concile voulait déjà qu'on aborde, parce que ça nous ramène à une vieille polémique, en gros, qui est née à l'époque de la réforme protestante, puisque les protestants ont introduit cette idée nouvelle, soudainement, qui était de dire qu'il n'y a que l'écriture, que le texte biblique qui soit l'expression autorisée de la révélation. C'est la seule source, le fameux sola scriptura. Mmh. Seule l'écriture nous donne accès à la parole de Dieu. Et tout le reste est un ajout humain qui n'a pas la même valeur. Bon, ça, c'était la position protestante, face à quoi le Concile de Trente avait dû défendre ce qui est traditionnel à l'Église. Il y a aussi ce qu'on appelle la tradition, c'est-à-dire le processus de transmission orale en acte de la parole de Dieu qui est écoutée, transmise, avec aussi l'ajout de vérité qui exprime la révélation dans les dogmes, dans le magistère, voilà, qui fait partie de la tradition. Donc la position catholique, c'est-à-dire il y a l'écriture et la tradition. Alors, face aux protestants, on réaffirmait toujours écriture et tradition. Mais le Concile a voulu sortir en quelque sorte de cette opposition en disant, bien sûr, l'écriture n'est pas le seul lieu où Dieu nous parle. Donc Vatican II a beaucoup insisté sur l'importance de la tradition, mais sans pour autant opposer écriture et tradition, sans en faire deux lieux parallèles, juxtaposés, qui seraient indépendants l'un de l'autre, mais au contraire un espèce d'organisme unifié dans lequel écriture et tradition sans cesse s'interpénètrent l'un l'autre. La tradition est nourrie d'abord de la lecture de l'écriture. Mmh. La tradition de l'Église se nourrit perpétuellement de la lecture de l'écriture, et l'écriture ne peut être bien comprise que dans la tradition. Donc il faut bien comprendre que tradition, pour Dei Verbum, ce n'est pas un ensemble de vérités qui ne serait pas dans l'écriture. Ça, c'était la manière un peu de Concile de Trente. Il y a d'un côté l'écriture, de l'autre des vérités qui ne sont pas écrites. Non, Vatican II nous dit, la tradition, c'est le processus global par lequel est transmise la parole de Dieu, donc est transmise l'écriture. Elle est lue, elle est interprétée par le peuple de Dieu, et c'est ça la tradition, qui la comprend, qui l'explique, et quitte à ajouter effectivement des expressions qui ne sont pas dans l'écriture, les fameux dogmes, les textes du magistère, mais le magistère et les dogmes sont sans cesse irrigués par l'écriture, et doivent trouver une relation nécessaire avec l'écriture, donc sorte qu'il y a une symbiose permanente qui doit se faire. Ça, c'est la grande nouveauté, le grand acquis de Vatican II, de nous sortir d'une fausse opposition. Il n'y a pas d'écriture sans tradition, mais pas de tradition sans écriture. Ce ne sont pas deux univers parallèles, mais un seul organisme.
La même source, en tout cas.
Et voilà, vous touchez le doigt, Vatican II a dit, il n'y a pas deux sources. Ça, c'était un peu la tentation des théologiens d'avant Vatican II, surtout dans l'école conservatrice. Il faut dire qu'il y a deux sources de la révélation, deux qui sont différentes, l'écriture et la tradition. Et Vatican II a tordu le cou à cette position, qui d'ailleurs n'était pas dans le Concile de Trente, qui parlait bien d'ailleurs d'une seule source qui est l'Évangile. Et donc, en s'appuyant sur le Concile de Trente, Vatican II a dit, il y a une seule source de la révélation, et cette source unique, c'est le Saint-Évangile. C'est-à-dire c'est le Christ, c'est la parole du Christ qui est la seule source qui vient à nous à travers des instruments. Il y a l'écriture qui est tout à fait privilégiée et il y a le processus global de transmission, de tradition de cette écriture interprétée, méditée, lue, enseignée par le magistère qui est le processus de tradition. Et ce ne sont pas des sources de la révélation, ce sont des expressions de la transmission de la vérité du Christ qui parle aujourd'hui encore dans son Église par ces canaux, on pourrait dire ces deux canaux. Oui. Mais qui ne sont pas jamais à mettre en opposition.
Oui, oui, c'est ça. On entend bien qu'effectivement, l'un interpénètre l'autre.
Voilà, la tradition est là pour transmettre d'abord l'écriture. D'ailleurs, dans la liturgie, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'acte par excellence de tradition dans l'Église, la liturgie. Ben, on écoute la parole, on écoute l'écriture. On écoute l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Il y a la prédication autorisée du ministre ordonné qui prêche pour interpréter. Et le peuple écoute ça et reçoit. Et ça permet de nourrir la tradition, l'enseignement vivant de l'Église. Et inversement, l'écriture a besoin de cette réception par l'Église, de cet enseignement autorisé par le magistère pour bien la comprendre. Sans ça, on tombe dans les erreurs protestantes qui croient que chacun peut interpréter tout seul directement l'écriture, ce qui amène très souvent à des erreurs, à des impasses. Voilà. Alors que l'Église dit on interprète l'écriture dans l'ensemble de la vie de l'Église.
Oui, c'est ça. Pour résumer, on peut dire que l'écriture est la parole de Dieu et la tradition la transmet.
Alors de fait, le concile Dei Vobiscum dit bien que l'écriture est non pas la parole de Dieu, mais l'écriture est parole de Dieu.
Ah oui.
C'est intéressant.
Elle
est parole de Dieu. Et de fait, elle seule mérite vraiment, on peut dire, cet qualificatif, elle est parole de Dieu, mais elle n'est pas toute la parole de Dieu. Alors que la tradition, elle est plutôt la transmission de la parole de Dieu. Exactement. Vatican II ne dit pas que la tradition, c'est la parole de Dieu. La tradition, c'est la transmission de la parole de Dieu. Donc on dit que l'écriture est parole de Dieu, mais on peut dire aussi que d'une manière un peu seconde, un dogme promulgué par l'Église aussi de quelque manière est parole de Dieu. Mais on dirait une parole seconde qui n'est pas dans l'écriture, mais qui est quand même parole de Dieu, qui appartient à la foi de l'Église. Croire que le Christ est une seule personne en deux natures, ça appartient à la foi de l'Église, ça appartient à la parole de Dieu. C'est parole de Dieu, même si ce n'est pas écrit dans l'écriture. C'est la tradition qui a compris que pour bien comprendre le mystère du Christ, il faut utiliser ces concepts. Une seule personne, dans deux natures, humaine et divine, c'est parole de Dieu aussi. Donc l'écriture, elle est par excellence la parole de Dieu, on pourrait dire.
Oui, c'est ça. Elle est vivante, la parole de Dieu, hein, lit-on dans la lettre aux Hébreux, chapitre 14, verset 12. Frère Henri, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on doit comprendre? Est-ce que la parole de Dieu, est-ce que c'est la parole de Dieu qui évolue ou est-ce que c'est son interprétation?
Non, quand on dit qu'elle est vivante, ça veut dire que la parole de Dieu, un peu, elle est active, elle est agissante, elle est source de vie. C'est-à-dire quand les fidèles reçoivent la parole de Dieu en eux, c'est pas simplement pour la mémoriser dans leur tête comme on mémorise des dictionnaires ou des définitions, elle est principe de vie. C'est ça, qu'elle agit dans nos vies, elle nous convertit, elle nous transforme, elle nous façonne à la ressemblance du Christ. C'est ça que vraiment dire que la parole de Dieu est vivante, elle est active. C'est pas simplement un mémorial comme ça de texte qu'on conserverait.
Une poésie.
Qu'on conserverait immuable. Au contraire, elle est source de vie permanente. Et du coup, cette parole elle-même, j'allais dire, elle évolue non pas dans son contenu, sûrement pas, on ne va pas ajouter à la parole de Dieu, mais elle évolue dans la manière dont on la comprend. On la comprend mieux, plus profondément, de manière plus ajustée au monde dans lequel on vit. On l'interprète de manière plus profonde, plus riche. Dans ce sens-là, on peut dire qu'elle est vivante. Et c'est la tradition qui, paradoxalement, fait que l'écriture n'est pas un texte mort. C'est l'écriture seule, c'est un texte mort. Il n'y a que des lettres, des mots qui ne bougent pas. Précisément, dans la tradition, ces mots sont reçus dans l'Église vivante et sont source de vie. Et ces mots vivent, en quelque sorte. Ils sont vivants, ils sont actualisés en permanence. On les reçoit de manière nouvelle, en profondeur. Ce qui fait que la tradition, et Vatican II dit beaucoup, elle est à la fois immuable dans son contenu, mais très vivante dans son expression. Dans le progrès, on parle même d'un progrès, Dei Vobiscum parle d'un progrès de la parole de Dieu. La parole de Dieu progresse dans l'Église par la meilleure intelligence, la meilleure compréhension, la meilleure adaptation. On découvre des réalités nouvelles qui étaient dans l'Écriture mais qu'on saisissait mal. On les découvre, on peut parler d'un progrès, d'un progrès dans la vie de l'Église. Et l'Église progresse.
À condition qu'elle se laisse justement accompagner dans cette progression et qu'elle se laisse touchée par la parole de Dieu.
Oui, alors ça, Vatican II dit qu'elle est à la fois vivante et fidèle. Ça, c'est très important. La réception de la parole de Dieu doit toujours être fidèle. La tradition est source de vie, de progrès, mais aussi de fidélité. La tradition garantit qu'on est bien fidèle au Christ, à l'Évangile, et que l'Église n'invente pas des nouveautés bizarres qui viendraient dénaturer le Christ et dénaturer les mystères de la Sainte Trinité, des sacrements. Il y a un principe de fidélité dans la tradition. De fait, quand on dit tradition, souvent ça donne plutôt l'impression, ah oui, on ne bouge pas, on conserve fidèlement. Oui, il faut conserver fidèlement mais on le fait d'une manière vivante. Déjà, Jaboum insiste très souvent sur ce tandem, à la fois vivante et fidèle.
Vivante et fidèle.
Et pour notre vie spirituelle, c'est très important. Nous, chrétiens, on n'a jamais à réinventer la parole de Dieu. On doit d'abord la garder. On garde la parole, on la reçoit, on la conserve. On n'a pas le droit de la changer, de la mutiler, à notre goût du jour, changer les choses, changer les dogmes. Non, on doit être fidèle, mais en le recevant de manière vivante, pour mieux la dire, mieux l'exprimer, mieux la mettre en œuvre, qu'elle corresponde vraiment aux besoins d'aujourd'hui. Oui, c'est ce tandem vie et fidélité que Vatican II a vraiment voulu. Et dans la vie spirituelle et la vie ecclésiale, ça nous aiderait beaucoup. Ça nous sortirait beaucoup d'ornières idéologiques que de s'enfermer. Il faut que l'Église soit fidèle, fidèle, elle ne doit rien bouger. Et bien, si, il faut que des choses bougent. Elle est vivante, mais vivante dans un principe de continuité, d'absolue fidélité au magistère. Un théologien qui prétendrait aller contre le magistère, on sait qu'il est infidèle. Il doit être fidèle au magistère. Ça ne veut pas dire qu'il est un simple perroquet qui répète toujours les mêmes choses. Mais oui, ce tandem vie-fidélité est un des grands acquis de Dei Verbum.
Oui, c'est ça. 50 ans plus tard, l'encyclique Divino Afflante Spiritu de Pie XII, pardon, donnait mission aux exégètes de faire une interprétation théologique et morale vraie des Écritures, mais il les encourageait dans la voie de la recherche scientifique. Donc là, on a aussi cette idée de fidélité et de...
Alors là, vous évoquez un des grands textes antérieurs à Dei Verbum, antérieur à Vatican II, en 1943. C'était 50 ans après la première grande encyclique du pape Léon XIII.
Oui, c'est ça, Léon XIII, oui,
1893, c'était le premier grand texte où l'Église essayait de prendre position sur les questions difficiles, comment interpréter l'Écriture. Ça, c'était vraiment la question de l'Écriture sainte. Est-ce qu'on a le droit de l'interpréter avec des méthodes nouvelles? En particulier la question de la méthode historique qui pouvait être dangereuse, qui pouvait amener à des remises en cause parfois intempérantes, mais qui en même temps était très nécessaire. Donc, Léon XIII avait commencé à baliser un peu les choses, un peu pour dire que l'Écriture, elle est inspirée par Dieu, donc elle ne contient pas d'erreur, on n'a pas le droit de la dénaturer. Mais en même temps, il laissait la voie à une interprétation, parce qu'elle est quand même aussi écrite par des hommes, donc on peut l'interpréter, mais ça restait assez limité. Les exégètes étaient très contraints. Toute la crise moderniste a fait apparaître des grands drames, des exégètes un peu audacieux qui osaient utiliser beaucoup la science historique, et tout en étant très catholique, comme le père Lagrange, ou Monseigneur Batifolle, le recteur de l'Institut catholique de Toulouse, qui a été méchamment remercié du jour au lendemain, suspecté d'être moderniste, de trahir, alors que c'était un grand catholique, mais qui utilisait un peu trop, aux yeux du Saint-Siège, la méthode historique. Bon. Pie XII, 50 ans plus tard, en 1943, a ouvert un texte beaucoup plus libérateur, qui reconnaissait la validité d'une étude historique. Et il faut prendre au sérieux le fait que l'Écriture sainte a été écrite par des hommes, même si c'est Dieu qui les inspirait. C'est des hommes, donc il y a des genres littéraires différents. Un texte historique, un récit historique n'est pas la même chose qu'un psaume, n'est pas la même chose qu'un texte sapientiel, des proverbes. Ça, c'est Pie XII qui a déjà bien fait avancer la réflexion. Et Dei Verbum, sur ce plan-là, n'a fait qu'officialiser et reprendre ce qu'avait ouvert Pie XII, sur le fait qu'on peut utiliser la méthode historique, à condition de le faire à l'intérieur de la foi de l'Église, sans remettre en cause au nom de l'histoire des vérités immuables de la foi. Mais Pie XII, pour ça, avait bien avancé. Ça nous ramène à la question, qui est l'auteur de l'Écriture?
Voilà, et alors justement, c'est la question que nous allons aborder juste après cette pause musicale. Nous écoutons « Bienheureux à qui sont révélés » interprétés par le chœur liturgique Saint-Ambroise.
Je vous appelle plus sérieux.
Église, Isabelle Duché.
La constitution Dei Verbum du Concile Vatican II est essentielle pour comprendre la place de la parole de Dieu dans la révélation et la vie de l'Église. Nous en parlons aujourd'hui avec frère Henri Donneau, dominicain et théologien. Que dit spécifiquement Dei Verbum, à propos de la provenance de l'Écriture? Est-ce qu'elle vient de Dieu? Est-ce qu'elle vient de l'homme? Ou là encore, est-ce qu'elle vient des deux?
Alors, Dei Verbum a pu de fait synthétiser une doctrine catholique sereinement possédée, qui est même, on peut dire, la fierté des chrétiens aujourd'hui dans cette relation à l'Écriture. Mais ce n'est pas Vatican II qui a inventé cette doctrine. Hein. Elle a été élaborée progressivement. Déjà, dans le Concile de Trente, il y avait des éléments. Et Pie XII, dans Divino Afflante Spiritus, l'avait bien dit. En gros, la position est très simple, c'est de dire que l'Écriture est écrite par Dieu. C'est-à-dire qu'elle est parole de Dieu, la parole que Dieu dit. Donc, c'est Dieu qui est l'auteur de l'Écriture. Si on dit que l'Écriture est parole de Dieu, ça veut dire que l'Écriture est dite par Dieu. Donc, tout ce qui est dans l'Écriture nous est dit par Dieu. Donc, on peut dire que Dieu est l'auteur à 100%. Il n'y a pas dans l'Écriture des passages dont on pourrait dire « ça, c'est Dieu qui parle », ça, c'est pas Dieu qui parle. C'était un peu la tentation de certains exégètes au XIXe siècle de dire on va distinguer dans l'Écriture des passages importants. On pourra dire que là, c'est Dieu qui parle. Et dans d'autres passages, c'est pas Dieu qui parle. Eh bien non, l'Église dit tout dans l'Écriture, jusqu'au petit iota, est dit par Dieu. Donc tout est parole de Dieu. On n'a pas le droit de distinguer des niveaux d'importance. L'Écriture sainte est tout entière parole de Dieu. On la vénère comme parole de Dieu, d'ailleurs dans la liturgie, très profondément. Verbum Domini, parole du Seigneur. Donc elle est parole de Dieu. Et en même temps, elle est parole d'homme. Alors, pendant longtemps, on disait, Dieu est l'auteur et les hommes sont des scriptores, des scribes en quelque sorte. Bon, ça voulait dire quand même ce que ça voulait dire, que tout avait été écrit par des hommes. C'est-à-dire que pour nous, la parole de Dieu, tout en étant donc inspirée par Dieu, elle n'est pas du tout dictée par Dieu. La distinction est fondamentale entre la conception chrétienne de l'inspiration de l'Écriture et la conception coranique de la descente du Coran. Parce que pour les musulmans, le Coran est mot à mot dicté par Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'auteur humain. Et les musulmans sont très choqués si on dit que le Coran a été écrit par des hommes. Ils considèrent que c'est un blasphème très grave. Le Coran a été entièrement dicté à Mahomet. Mahomet n'a pas introduit une pointe de ponctuation dans le Coran qui serait de lui. Tout est directement de Dieu et exclusivement de Dieu. C'est ça la conception coranique. Et rien d'humain. Alors que pour nous, l'Écriture, qui est totalement parole de Dieu, elle est aussi, en même temps, totalement parole d'homme. Elle est passée par des hommes. Alors Vatican II dit très bien, Dieu a utilisé des hommes dans la plénitude de leur capacité d'homme. C'est dans des textes pleinement humains qui ont été rédigés comme des textes humains. Ce qui veut dire qu'il y a une inspiration, donc Dieu accompagnait les auteurs, mais Dieu ne travaillait pas à la place des auteurs. Il travaillait dans les auteurs, il les inspirait de l'intérieur. C'est très beau, hein, l'inspiration. D'ailleurs, Dieu parle à l'intérieur même. Donc les hommes ne sont pas des magnétophones qui se contentent de remettre par écrit ce qu'ils entendent intérieurement. Non, ils réfléchissent, ils élaborent, C'est une parole d'homme à 100%. Donc on veut dire qu'elle est 100% parole de Dieu et 100% parole d'homme. Ça, c'est le mystère très précieux de la doctrine catholique qui fait que Dieu agit à 100% et les hommes à 100%. C'est une très belle manière d'une convergence, une synergie entre Dieu qui inspire. Ce texte-là, l'Écriture sainte, est un statut absolument unique. Il n'y a que de ces textes-là dont on dit que Dieu l'a inspiré. Ouais, et que c'est Dieu qui parle aujourd'hui à travers ces mots, alors même qu'on sait qu'ils ont été écrits par des hommes de leur temps, avec leurs compétences, leurs connaissances de leur temps. Alors bien sûr, ils avaient une inspiration intérieure très forte. Certainement, la plupart avaient des expériences mystiques assez fortes, enfin un sentiment prophétique. Mais ça ne les a jamais dispensés, d'où la richesse de nos quatre évangiles, c'est magnifique. Les auteurs d'évangiles ont tous, pour dire le même message du mystère du Christ, ont utilisé des mots différents, des récits différents, des argumentations différentes. Ouais, chacun d'eux apporte sa note propre.
Ces récits se complètent. Et ces récits se complètent
magnifiquement. Et ça, c'est Dieu clair. Qui a voulu ça. On sait que Dieu a voulu dans sa providence que les évangiles soient écrits par quatre auteurs différents qui chacun à sa manière nous disent quelque chose. Aucun d'eux ne peut être séparé des autres. Et en même temps, chacun a en propre quelque chose. Il y a une théologie spécifique de Saint Jean, une théologie spécifique de Luc, de Marc. Mais en même temps, ils convergent vers l'expression de l'unique mystère du Christ. Et c'est Dieu qui parle à travers ça. Donc ça, c'est le trésor de la conception chrétienne qui évite tout fondamentalisme. Parce qu'on sait que tout texte biblique est justiciable d'une histoire, puisqu'il est écrit par des hommes. Alors on cherche à savoir qui, comment, on y arrive plus ou moins. Est-ce que c'est vraiment Moïse qui a écrit tous les textes du Pentateuque? Bon, pendant longtemps dans l'Église, on disait oui, Moïse est l'auteur du Pentateuque. Bon, il a tout écrit. Il a écrit la Genèse, il a écrit l'Exode. Bon, puis on a bien vite découvert que, aujourd'hui, ça ne tient pas vraiment la route. Moïse ne peut pas avoir raconté sa propre mort à la fin.
Oui, évidemment.
à la fin de l'Exode. Donc on voit bien que ce n'est pas Moïse qui a tout écrit. Voilà. Ceci ceci dit, il est bien possible que beaucoup de choses viennent de lui, ont été transmises en son nom. Ouais. C'est tout le processus de rédaction progressive d'un texte historique. Mais Dieu a tout inspiré. Mm. Pour ça que nous, ce n'est pas parce que ce n'est pas authentiquement écrit par Moïse que ce n'est pas Dieu qui parle.
Oui, c'est ça. Ouais.
De même pour, est-ce que Saint Jean a tout écrit? Est-ce qu'il y a eu plusieurs gens, des existants, Jean 1, Jean 2, Jean 3? Bon, peu importe. Il y a sûrement un Jean fondamental qui était le Seigneur. Et après, on sait qu'aujourd'hui, l'évangile de Jean, pour nous, il est tout entier inspiré, quels que soient les auteurs qui l'ont écrit. Pareil pour Luc, pour Marc. Donc, les psaumes, c'est pareil. Est-ce que c'est David qui a écrit tous les psaumes? Probablement pas. Mais on sait que Dieu a inspiré tous ces textes.
Il a parlé par chacun de ces textes.
Quels que soient les auteurs. Alors, effectivement, d'ordinaire, on cherche à rapprocher les textes de grands auteurs. Alors, c'est très clair pour les évangélistes. Pour nous, les évangélistes, c'était tous des témoins oculaires du Christ. Bon. Que ce soit Jean lui-même ou un autre, tous ont été témoins oculaires et nous rapportent la vérité ensemble du mystère du Christ. Et c'est pour ça qu'on sait que pour nous, l'Écriture a ce statut absolument unique. Oui, en tout cas, c'est un grand acquis que Vatican II a pu, j'allais dire, officialiser, qui est une source de grande sérénité pour nos chrétiens, qui dirime un peu les conflits entre exégètes, théologiens, croyants. Laissons les exégètes travailler, on sait que c'est parole de Dieu. Peu importe qui a écrit, comment il l'a écrit, c'est toujours Dieu qui nous parle.
Oui,
et aujourd'hui, on doit l'accueillir comme tel.
Et justement, dans l'Écriture, que dit Dieu? De quoi parle l'Écriture?
Oh bah, alors ça aussi, Vatican II a apporté une très belle précision parce que ça touche un peu à la question de la présence des... Y a-t-il des erreurs dans l'Écriture?
Oui, voilà.
Si c'est Dieu qui l'a écrite, si c'est Dieu qui l'a inspirée, si c'est Dieu qui parle, il ne peut pas y avoir d'erreur. Ah oui, mais quand on lit les textes, on voit bien qu'il y a parfois des passages, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a des erreurs, il y a des choses qui ne paraissent pas très vraies. On prend toujours un peu les mêmes exemples, mais dans les généalogies de Jésus, selon qu'on prend la généalogie de Matthieu ou la généalogie de Saint-Luc, on s'aperçoit qu'il n'y a pas les mêmes ancêtres. Par exemple,
oui,
les grands-parents paternels de Jésus ne sont pas les mêmes personnes. Alors qui a raison? Est-ce que c'est Matthieu ou est-ce que c'est Luc? Bon, on voit bien qu'il peut y avoir des inexactitudes, bon. Mais Vatican II trouve une très belle solution en disant « Dieu ne dit que dit tout ce qui concerne le salut ». Tout ce qui est dans l'Écriture est là pour nous ouvrir la porte du salut, nous faire entrer dans le dessein de salut de Dieu, le faire croire que Dieu agit et nous révéler comment il agit pour nous. Oui, c'est une notion de salut. Dieu parle pour nous sauver. Dieu ne parle pas pour nous expliquer comment marche le ciel. Dieu ne parle pas pour nous expliquer comment est constituée les couches géologiques. Ça, il n'y a pas besoin que Dieu nous le dise, on peut le trouver. Par contre, ce que les hommes ne pourront jamais trouver et que Dieu nous dit, c'est comment être sauvé, comment entrer en amitié avec Dieu, comment accueillir le pardon de Dieu, comment nous laisser sauver par Dieu. C'est ça que dit l'Écriture.
Oui, c'est ça.
Et c'est un concept très unifiant, hein, la parole que Dieu, pour notre salut, a voulu nous donner. C'est comme ça que Vatican II définit, hein, la parole pour notre salut, propter nostram salutem. Dieu parle pour nous sauver.
Pardon, vous vouliez dans l'Écriture, l'Église trouve en fait sa nourriture et sa force avec cette parole de salut.
L'Église ne trouve sa nourriture que dans l'Écriture et dans les sacrements, qui sont d'ailleurs indissociables. Il n'y a pas de sacrement sans l'écoute de l'Écriture. Et l'Écriture trouve sa plénitude dans l'actualisation du salut, parce que dans les sacrements, Dieu donne le salut, donne sa vie. Et tout sacrement est entouré par la parole de Dieu. Oui. C'est toujours une parole de Dieu qui devient agissante. Et donc l'Église ne peut trouver la vérité de son agir, de son être, que dans l'Écriture et dans la parole de Dieu au sens large. Il faut que sans cesse elle en vive. Elle est là d'ailleurs pour ça. Et aussi pour en témoigner et pour la partager. Parce que les hommes peuvent inventer plein de choses très vraies, très justes en matière de science, d'économie, d'astrophysique. Dieu n'a pas besoin de nous enseigner ça. Par contre, ce que les hommes ne pourront jamais trouver et que l'Église reçoit en dépôt pour qu'elle le donne à l'humanité, c'est comment on pourra être sauvé, comment on pourra être guéri du péché, comment on pourra être entré dans l'amitié de Dieu. Ça, c'est ce que doit dire l'Église et elle le trouve dans la parole de Dieu. Ce n'est pas elle qui l'invente, l'Église n'invente rien.
Oui,
on doit toujours écouter la parole de Dieu. D'ailleurs, Vatican II commence Dei Verbum audiens. L'Église écoute la parole de Dieu et lui obéit. Ça, c'est les deux premiers mots de Vatican II. L'Église est d'abord essentiellement écoute et obéissance à la parole de Dieu. L'Église ne commande pas la parole de Dieu, ne la fabrique pas, ne l'invente pas, ne la réforme pas. Elle l'écoute et elle lui obéit. On obéit à la parole de Dieu. Dieu a parlé. Encore faut-il bien l'écouter, justement, mettre en pratique.
Exactement, parce que écouter et obéir... Ça voudrait dire que dans l'interprétation qu'on peut faire de la parole de Dieu, il peut y avoir des erreurs.
Alors bien sûr, mais quand on dit qu'on obéit, encore faut-il bien la comprendre.
Oui,
c'est là qu'intervient le rôle très important de l'Église, qui est là précisément pour donner la parole et donc l'expliquer et bien l'expliquer. avec justesse, l'expliquer sans étroitesse, parce que la tentation, c'est qu'on interprète de manière trop étroite, rigide, figée, une conception étriquée de la tradition, un peu immuable, mais on peut aussi interpréter de manière trop vivante, désordonnée, presque cancéreuse, sans fidélité, et ça, c'est le rôle de l'Église. L'Église n'invente pas la parole de Dieu, mais elle l'interprète avec autorité et justesse. Elle est là pour ça. Et au sommet, un peu pour nous, il y a cette certitude que le magistère, finalement, nous donnera toujours la bonne interprétation. Surtout dans ce qu'on appelle le magistère infaillible, quand un concile œcuménique définit un dogme, comme ça s'est passé dans les grands conciles œcuméniques des premiers siècles, ou quand le pape promulgue un dogme, ou que Vatican II énonce certaines doctrines, c'est le magistère infaillible de l'Église universelle qui s'exprime. Et on sait que ça, c'est l'interprétation authentique. Et qu'on ne peut pas aller contre. Sans ça, on va se mettre en dehors de la parole de Dieu.
Et oui, voilà, c'est ça. C'est le risque. Un autre axe majeur de la constitution Dei Verbum, c'est l'affirmation de l'importance de l'écriture dans la vie de l'Église et aussi dans la vie de chaque fidèle. Qu'est-ce que cette affirmation implique pour la vie ecclésiale d'une part et puis pour la vie spirituelle de chaque chrétien d'autre part?
Alors ça, c'est un des aspects très importants du dernier chapitre de Dei Verbum sur la parole de Dieu dans la vie de l'Église. Là, très nettement, il y avait un souci un peu réformateur du Concile pour sortir, parce qu'il faut être clair, depuis la réforme protestante, qui avait hypertrophié l'importance et la valeur, enfin hypertrophié, avait rendu à l'Écriture sainte le statut d'être à elle seule toute la parole de Dieu, il n'y avait la parole de Dieu que dans l'Écriture. En contre-coup, les catholiques ont dit non, il y a la tradition, et donc, au fond, on avait déshabitué les fidèles à se nourrir de l'Écriture. Il faut le reconnaître, Jean-Paul II d'ailleurs en a demandé pardon, les catholiques se sont trop détachés de la fréquentation de l'écriture. On ne la comprenait plus, elle était uniquement en latin dans la liturgie, on n'avait pas le droit d'y avoir accès personnellement, les chrétiens n'avaient pas le droit d'ouvrir la parole de Dieu tout seul, l'écriture. Il fallait qu'elle soit interprétée dans le catéchisme. Donc il y avait une séparation entre l'écriture et le corps du peuple de Dieu.
D'où sa traduction dans les langues vernaculaires.
Qui est très récente.
Alors
les jansénistes au XVIIe insistaient quand même sur l'importance de faire des traductions, mais dans le peuple de Dieu, on n'avait pas de Bible chez soi. C'était les protestants qui avaient la Bible chez eux. Les catholiques ne voulaient pas, on n'est pas protestant, on n'ouvre pas la Bible, on se contente d'écouter le prône de monsieur le curé le dimanche à la messe. Donc, il y avait une séparation de l'écriture avec la vie de l'Église. Et là, Vatican II dit ça ne doit pas durer, il faut réformer. Si Dieu a parlé dans l'écriture et dans sa tradition, c'est pour que tout le peuple de Dieu se nourrisse de la parole, et en particulier de l'écriture. Alors, les fidèles ne peuvent pas tous devenir des grands docteurs en exégèse, ne peuvent pas passer leur journée à méditer l'écriture, mais il faut vraiment, et c'est ce qu'a voulu Dei Verbum, que tout le peuple de Dieu cultive cet amour de l'écriture, chacun selon ses capacités. D'abord, de bien écouter le dimanche, une homélie qui doit porter sur l'écriture, qui doit éclairer l'écriture, que les fidèles puissent se préparer à l'avance, pourquoi pas, avant
donc
le dimanche.
Donc lire les textes avant.
Lire les textes à l'avance, ça c'est très important, c'est pas très difficile. Aujourd'hui on ouvre son téléphone,
on a tout,
Magnificat, on a plein de choses, on prie en église, on le lit à l'avance, et après on peut le relire pour mieux le comprendre, après les explications de monsieur le curé, alors on ne comprend pas bien ce qu'il a voulu dire, on peut discuter. La formation de groupes bibliques, de groupes de Lectio Divina, que l'écriture irrigue davantage la vie d'église. Alors, Vatican II l'a demandé fortement, 50 ans après, je ne suis pas sûr que les résultats soit très mirobolant, mais je pense qu'il y a quand même un vrai progrès. Je suis très frappé de voir le nombre de fidèles qui ouvrent régulièrement leur Magnificat, leur prière en église, leur application YouPray ou e-liturgie. Ça, c'est très très beau. C'est une marque de comment le Vatican II a imprégné la vie de l'Église en profondeur.
Oui. Et le pape Benoît XVI, 40 ans après cette constitution Dei Verbum, est intervenu à plusieurs reprises pour souligner l'importance de ce texte. Il avait encouragé la pratique de la Lectio Divina, donc la lecture de la parole de Dieu, en disant qu'elle peut apporter à l'Église un nouveau printemps spirituel.
Absolument, mais c'est tout à fait ce qu'avait voulu Vatican II. L'abbé Ratzinger, à l'époque, qui était un expert au Concile, a fait beaucoup travailler à la rédaction de Dei Verbum, précisément, ce retour aux sources profondes, bibliques, liturgiques, patristiques, il a beaucoup travaillé, et comme pape, il a donné cette magnifique exhortation Verbum Domini, la parole de Dieu, qui lie indissociablement la pratique de l'écriture et l'écoute de l'écriture dans la liturgie. Pour Benoît XVI, c'était fondamental. L'écriture, elle est d'abord écouter dans la liturgie, au cœur de la liturgie. Et après, il faut que ce soit relayé dans la vie de chaque fidèle, dans la vie des communautés. Mais fondamentalement, c'est d'abord dans la liturgie que la parole de Dieu résonne. Que l'écriture résonne, d'où l'importance de bien lire l'écriture, former des vrais lecteurs.
Ah oui, ça aussi, ça compte.
Qui lisent avec un souci de précision, que ça rende intéressant, savoureux la parole de Dieu. Préparer des lecteurs, ensuite des bonnes homélies, qui ne soient pas ennuyeuses, qui ne tournent pas autour du pot sans rien dire, qui ne fassent pas passer les obsessions personnelles du prêtre. Non, le prêtre est là pour dire ce qu'il y a dans l'écriture. et faire que ça nourrisse le peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu puisse être renvoyé à cette écriture.
Un dernier mot pour conclure, Frère Henri Deneau, sur cette réception de cette constitution des Iverboom 60 ans après.
Bon, on peut dire qu'il y a notamment des grands progrès qui ont été accomplis. Mmh. Hein, je ne parle pas de la liturgie qui est devenue quand même, qui a laissé beaucoup plus de place à faire résonner vraiment la parole de Dieu. Ça, c'est très important. On voit aussi ce que je disais, que les fidèles ont pris l'habitude de pratiquer. Après, on pourrait souhaiter que ça aille plus loin, que l'écriture soit mieux connue. Vous avez commencé par la citation de Jérôme. Ne pas connaître l'écriture, c'est ignorer le Christ. C'est très fort. Cette citation est dans des Iverboom, a été reprise. On pourrait souhaiter que le peuple de Dieu se noie. Mais je suis frappé quand tous les jeunes convertis aujourd'hui prennent l'habitude spontanément d'aller lire la parole de Dieu. Plusieurs disent qu'ils sont en lisant l'évangile qu'ils ont. Et ils se nourrissent de ça. Donc, ça, c'est très bon signe. Ça montre que cette parole de Dieu est toujours actuelle. Et jusqu'au retour du Christ, elle sera la nourriture principale qui conduit au sacrement et qui nous unit à Dieu en profondeur et qui crée la communion de l'Église.
Oui, c'est ça. L'un n'exclut pas l'autre et surtout pas.
Ils ne peuvent pas avancer l'un sans l'autre.
Oui, c'est ça. Parole de Dieu et sacrement. Merci beaucoup, Frère Henri Deneau.
Merci, Isabelle.
Vous nous avez éclairé sur la constitution Dei Verbum et encouragé à lire et à scruter la parole de Dieu. C'était Vivante Église, votre émission quotidienne de la vie chrétienne en Occitanie.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.